Premier livre de Samuel, chapitre 26, David dans le camp de Saül, Saül de nouveau épargné par David. Veuillez vous reporter à votre Bible pour la lecture de ce chapitre.
Et encore les deux oints de l'Éternel que Dieu laisse subsister le premier, les voici encore tous deux face à face. Le réprouvé, Saül, et l'élu de Dieu, David. Et nous l'avons déjà dit, mais il faut avoir constamment cette pensée présente au cœur, c'est la chair qui lutte contre l'esprit. La première persécutant constamment le second. La chair persécute l'esprit. Rappelons-nous ce que dit l'apôtre Paul dans les Galates. Celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant, et nous pouvons ajouter, ainsi en est-il de tout temps. De tout temps, tant que cette terre dure, ce qui sera la chair, c'est-à-dire l'homme de la chute, l'homme fondé sur lui-même, replié sur lui-même, puisant en son propre fond ses déterminations, ce ne sera que le malheur sur la terre. Il faut bien qu'on le sache, ce sera le Saül. Le Saül, c'est une image, véritablement, n'est-ce pas ? Une image qui est là, présente, comme d'autres, dans le récit biblique, parole de Dieu, pour nous montrer ce que fait l'homme de la chute. L'homme a voulu se séparer de Dieu. Il a voulu rejeter la parole de Dieu. Voilà où il en est. Voilà ce qu'il va faire. Et aujourd'hui, n'est-ce pas ? Nous voyons constamment l'homme mu par les pensées qui étaient dans Saül. Saül n'était encore, peut-on dire, n'est-ce pas, qu'un exemple, qu'un peut-être un échantillon d'humanité. Et il avait pour objet David, l'élu de Dieu, mais cela, n'est-ce pas, se grossit et cela prend la dimension des parties en présence aujourd'hui, l'Église. D'une part, n'est-ce pas, les fidèles de Dieu, ceux qui appartiennent à Dieu, et puis même aujourd'hui, à nouveau, puisque le plan de Dieu se déroule, comme les prophètes l'avaient montré, la jeune nation d'Israël. La jeune nation d'Israël, n'est-ce pas, qui est entourée de tous ceux qui aboient contre elle, qui veulent sa destruction, et c'est toujours la chair. Ce qui était né, ce qui est né selon la chair, ce qui est chair, rappelons-nous la parole de Jésus, ce qui est né de la chair est chair, ça reste chair, ça ne peut pas changer, ça garde l'empreinte de la chute. Alors, ce qui est né de la chair est chair, la chair va constamment persécuter l'esprit. Et en nous, chers amis, sans aller toujours à l'extérieur, en nous, nous avons toujours ce vieil homme. Oui, ce vieil homme, Dieu, tant que nous sommes sur la terre, ne l'a pas détruit. La destruction de notre tente, comme dit l'Écriture, le Nouveau Testament, cette destruction n'aura lieu que soit quand nous quitterons cette terre, chacun en son temps, ou soit quand le Seigneur viendra prendre son Église et qu'il y aura ce changement en un clin d'œil annoncé par l'Écriture. Mais ce vieil homme est toujours là, comme Dieu a permis que Saül reste là des années en présence. Lui le réprouvait en présence de l'élu de Dieu. Eh bien, le vieil homme persécute l'homme nouveau. Le vieil homme est le réprouvé. Il est réprouvé. La chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Il est le réprouvé, lui. Et l'homme nouveau est l'élu. Lui seul règnera. Nous avons en nous cette dualité, chers amis. Elle vient de la chute, sachons-le. Ah, l'homme a voulu le bien et le mal. Et Dieu permet que, dans cette situation où nous sommes, nous avons le bien et le mal en nous. Nous avons le bien et le mal. Enfin, la chair, c'est le mal. Comme dit l'apôtre Paul, je ne consultais ni la chair ni le sang, je ne consulte pas l'homme en moi, n'est-ce pas ? Mais il y a le bien et le mal. Et le Seigneur nous met dans cette position. Il a rétabli en nous le bien, parce que l'homme nouveau, c'est l'homme qui est capable du bien, capable d'obéir à la parole de Dieu. Mais Dieu permet que cette dualité soit en nous, mais nous pouvons donner force à l'homme nouveau. Et la foi va être cela, elle va conférer, elle va permettre par la grâce de Dieu d'obtenir force sur l'homme nouveau en nous et de maîtriser la chair. C'est ça votre combat, n'est-ce pas? Beaucoup me disent « j'arrive pas ». Mais donnez force à l'homme nouveau par la foi. Appelez la grâce de Dieu. Mettez-vous vous-même dans le sillage que Dieu vous a préparé. Sillage d'obéissance à sa parole. Mettez-vous là, placez-vous là. Et appelez humblement la grâce de Dieu sur vous par la foi. Croyez que vous l'avez et vous la verrez s'accomplir. Vous la verrez en vous. N'est-ce pas? Vous donnez force à l'homme nouveau et l'homme de la chair sera combattu. Il nous est dit que David était installé là, sur la colline. David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila, en face du désert? N'ayez pas peur, allez-y. Teresse de Massada, qui, à ce moment-là, n'était pas évidemment ce qu'elle fut au début de notre siècle, quand les Romains la prirent. Elle n'était pas fortifiée, elle a été fortifiée par Hérode le Grand. C'est Hérode le Grand qui en a fait une forteresse, à proprement parler, militairement parler. Et dans cette forteresse, des Israélites, assez nombreux, s'étaient réfugiés. Il y avait d'ailleurs des silos et toutes sortes de choses. Hérode le Grand avait fait les choses très bien, et il avait non seulement entouré le plateau qui est isolé du reste par un abrupt, il avait non seulement construit des murs, des murailles, n'est-ce pas, mais il avait fait des silos, préparé tout ce qu'il fallait pour un long siège. Et c'est là que se trouvaient donc des Israélites en l'an 66, les Romains s'efforcèrent d'expulser les Juifs qui étaient là dans cette forteresse et ils ne purent pas, ils durent abandonner l'opération à ce moment-là. Puis, entre-temps, ce fut la prise de Jérusalem par Titus et puis, alors, cette grande affaire de l'an 70, Jérusalem pratiquement réduit en cendres, et 1 million de Juifs au moins tués, n'est-ce pas? Commencement de la diaspora, de la dispersion en l'an 70. Et alors après cela, après cette opération réussie qui valut un grand succès à Titus, futur empereur, qui n'était que général à ce moment-là, futur empereur, alors après ce moment-là, n'est-ce pas, on voulut vraiment faire de la Palestine une province romaine. Elle fut, à ce moment-là, décrétée province romaine. Et alors, il fallut en finir avec les Juifs qui étaient établis en résistance, et notamment ce foyer de Massada. Et c'est alors que les Romains vinrent, et depuis l'automne du l'an 72, l'automne 72, ils construisirent toutes sortes de terrasses, ils firent un travail, ils étaient très forts, dans cette technique du moment, n'est-ce pas? Ils construisirent vraiment, n'est-ce pas, tout autour de, enfin, sur une grande partie, n'est-ce pas, autour de cet abrupt, ils construisirent alors des terrasses, des tremplins, si bien qu'ils furent en mesure, au printemps de l'an 73, de donner l'assaut. Et l'assaut fut ordonné. Un beau jour, n'est-ce pas? Les légions romaines se lancèrent sur ces tremplins, il y en avait plusieurs, ils vinrent là, n'est-ce pas? Et quelle ne fut pas leur surprise, lorsqu'ils arrivèrent, de ne trouver aucune résistance, pas une flèche, rien, ne sortait de la forteresse, pas un bruit. Ils entrèrent aisément, avec des échelles, ils arrivèrent dans la forteresse, c'était le silence complet. Ils ne trouvèrent que des cadavres. Tous les Juifs n'avaient pas voulu qu'ils être livrés, ils s'étaient eux-mêmes donné la mort. Massada est resté donc dans l'histoire du peuple juif quelque chose qui a marqué beaucoup cette histoire et marque encore aujourd'hui, puisque, n'est-ce pas, ils disent maintenant, il n'y aura pas de nouveau Masada. Seulement, nous sommes, nous, n'est-ce pas sur le terrain de l'héroïsme. C'est très beau, n'est-ce pas, ces actes d'héroïsme, ces peuples qui veulent se défendre leur patrie. C'est excellent, c'est peut-être très beau, n'est-ce pas, mais ce n'est pas le terrain sur lequel nous sommes conduits. Ce n'est pas là, et de cette manière-là, que s'accomplit la volonté de Dieu. Et je disais tout à l'heure que le chant de nos amis, de nos choristes, avait été une excellente introduction à notre étude, parce que, n'est-ce pas, nous allons pouvoir, en effet, y reconnaître à nouveau que quelque chose est valable, quelque chose est bon, quelque chose travaille pour l'avenir, travaille pour l'avancement des desseins de Dieu, travaille pour le salut des hommes, le salut que Dieu a en vue, quand c'est la foi qui anime ceux qui travaillent. Si ceux qui travaillent sont animés par la foi, et par conséquent, si leur foi leur fait découvrir le dessein de Dieu, la ligne, la direction que Dieu donne, n'est-ce pas, à leurs ailes, alors là, ils vont faire un travail qui va durer pour l'éternité. Ils vont travailler pour l'éternité. Autrement, même avec du courage, avec de l'héroïsme, mais sans la foi, on ne fait que travailler pour ce qui périt. Ah. Alors, vous voyez que ce qu'il faut admirer dans l'histoire du peuple juif, ce ne sont pas les grands actes de courage, n'est-ce pas, qui ont pu isolément se manifester pour défendre un territoire. Ce qu'il faut admirer, c'est ce que nous propose Hébreux 11. N'est-ce pas? Ces gens qui, par la foi, ont fait, n'est-ce pas, je ne veux pas reprendre ce chapitre, vous le connaissez, c'est un très beau chapitre, tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont souffert, tout ce qu'ils ont pu vaincre, tout ce qu'ils ont obtenu de surnaturel, d'action surnaturelle, tout cela par la foi, et qu'ont-ils fait avec ça une œuvre précaire, éphémère? Pas du tout. Ils sont là, prêts à recueillir avec nous l'héritage qui a été promis. Ils ne sont pas avant nous. Dieu les a retenu leur héritage pour qu'ils ne nous devancent pas, mais ils vont hériter quand Dieu prendra par Jésus-Christ à lui l'Église. Alors, eux, dans cette résurrection, ils seront présents, ils seront là. Ainsi, c'est par la foi. N'est-ce pas? Sans la foi, vous ne ferez rien d'utile. Nous avons quantité dans l'histoire, quantité de guerres, quantité d'actions d'éclat, d'actions de génie, et même, dirait-on, n'est-ce pas, toutes sortes d'actions qui procède d'une bonne volonté, qui procède même d'une pensée d'améliorer la condition du peuple, d'établir quelque chose de solide et de durable, rien ne dure. Rien. Tant que ce n'est pas par la foi, chers amis, si l'on ne comprend pas cela, on n'a pas compris le message de la Bible. C'est par la foi, Hébreux 11, n'est-ce pas? C'est par la foi uniquement que l'on peut servir Dieu et faire quelque chose d'éternel. Les Ziphiens, donc, vont encore trahir David. Et cela nous rappelle aussi que nous, n'est-ce pas, nous avons non pas à lutter seulement contre la chair et le sang, mais la chair et le sang, comme nous le dit l'Épître aux Éphésiens, la chair et le sang sont excités au mal par les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, et on ne le voit que trop. Éphésiens 6, n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement. Alors là, n'est-ce pas, Saül était l'homme de chair. Il était à ce moment-là tranquille. Il avait toujours en lui, bien sûr, ce ferment de jalousie et cette haine contre David qui était destiné à lui prendre le trône. Il avait toujours cela. Mais sur le moment, il était tranquille. Et voilà les Ziphiens qui viennent lui dire, « Hé, roi Saül, tu sais, est-ce que David n'est pas là? Ne sais-tu pas qu'il est sur la colline de Hakila? Il est à Massada. » Enfin, ça ne s'appelait pas ainsi à ce moment-là. « Il est là-bas, n'est-ce pas, à Massada? Qu'est-ce que tu en penses, roi Saül? Alors ils viennent lui suggérer d'aller là-bas. Il n'y serait pas allé à ce moment-là, n'est-ce pas, s'il n'y avait pas eu ça. Voyez-vous, il y a toujours, n'est-ce pas, des gens, et je dis des gens, des êtres, disons, n'est-ce pas, pour exciter l'homme au mal. Parce que les hommes se sont livrés à un être plus fort qu'eux, à Satan qui a triomphé du monde, qui a triomphé d'Adam et Ève. Ils se sont livrés, ils sont à sa discrétion. Et maintenant Satan et ses démons agissent pour exciter l'homme au mal. Ah, chers amis, c'est cela qu'il faut bien comprendre aussi. Si bien que Saül, qui se tenait tranquille depuis la dernière rencontre avec dans la caverne d'En-Gedi avec David, voici que Saül, n'est-ce pas, excité par les Ziphiens, part en expédition à nouveau avec ses 3000 hommes d'élite. Mais nous voyons là que David agit différemment. D'abord, il n'a plus peur. Avant, n'est-ce pas, il était véritablement tremblant, il était saisi de peur, pas. Et alors il allait se cacher dans une caverne. Maintenant, n'est-ce pas, il n'a plus peur. Voilà un grand progrès de sa foi. Voilà ce que nous appelons un affermissement. Il n'a plus peur. Au point qu'il se rend lui-même et tout seul au milieu du camp de Saül. Il fait la reconnaissance, certainement, n'est-ce pas, avait-il mis les habits de tout le monde, n'est-ce pas, il va et puis il se promène dans le camp comme s'il était quelqu'un du camp, il est habillé comme étaient habillés les gens du camp, il n'y avait pas de vêtements militaires à ce moment-là. Alors, il est là, il parcourt le camp, il arrive, il voit au milieu du camp l'endroit où le roi Saül dormait, il y avait à côté Abner, le chef de son armée, n'est-ce pas? Il voit ça tranquillement, il peut faire la reconnaissance des lieux, n'est-ce pas? Tout à fait tranquillement, tout seul! Tout seul, si quelqu'un l'avait reconnu, n'est-ce pas? Et l'avait saisi, ah, il était... Mais il n'a pas peur, il n'a pas peur. Voilà, n'est-ce pas, un grand progrès de sa foi, et vous savez que le Seigneur Jésus n'a pas félicité les apôtres quand ils ont eu peur sur le lac lors d'une certaine tempête, alors que Jésus dormait dans le fond de la barque. Homme de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Ça veut dire la peur, c'est pas la preuve de la foi. La peur, c'est une chose qui n'est pas bonne. Si on a foi, on a confiance, on s'appuie en l'Éternel, on aime l'Éternel, on sait qu'on est aimé de l'Éternel, si on a la foi, alors pourquoi aurait-on en même temps la peur? Ah, chers amis, dès qu'il nous arrive quelque chose, hein, premier mouvement, la peur, la peur. Eh bien, rappelons-nous ce que Jésus dit. Jean de peu de foi, pourquoi avez-vous eu peur? Attention, ce que Dieu nous demande, pour que notre foi, n'est-ce pas, obtienne réponse et obtienne la réponse selon les promesses de Dieu, c'est que nous nous tenions dans la fidélité. Hein? Enfin, je n'ai rien dit pour quelqu'un qui se tient hors de la fidélité. Mais si nous nous tenons avec persévérance dans la fidélité à la parole de Dieu, apprenant de mieux en mieux à marcher selon cette parole, eh bien, nous n'avons pas à avoir peur. Nous n'avons pas à avoir peur. Il n'y a pas de peur. L'apôtre Paul nous dit, ne vous laissez pas effrayer par les adversaires. Même si ces adversaires s'appellent Satan et autres démons, n'est-ce pas? Nous n'avons pas à nous laisser effrayer par les adversaires. Nous voyons David, par conséquent, qui a surmonté la peur. Et il l'a surmonté. Pas par un travail de sa volonté, pas, n'est-ce pas, en se disant, mon ami David, il faut absolument, n'est-ce pas, que tu arrives à être plus courageux que ça et que tu n'aies pas peur. Non, c'est pas comme ça. Il y est arrivé comment? Dans l'épreuve. Dans l'épreuve, il y est arrivé par l'humiliation. Nous n'avons qu'à lire ses psaumes. Il y est arrivé par l'humiliation, dans l'épreuve. Il s'est humilié, mais malgré tout, il a toujours... n'est-ce pas, chanter, je dis chanter parce qu'il s'agit des psaumes, chanter, proclamer la délivrance de l'Éternel, le soutien de l'Éternel. Tu es mon refuge, Seigneur, en toi je me confie. Et alors, ce faisant, se confiant dans l'Éternel, proclamant même quand il vacillait quant à cette fermeté, n'est-ce pas, dans la foi, eh bien, proclamant ce soutien de l'Éternel et traversant l'épreuve, ainsi il est arrivé à l'affermissement. Alors je vous propose cette solution, pour la vie chrétienne, n'est-ce pas? Vous êtes à travers des difficultés par exemple simplement en vous-même. Je ne parle pas toujours de difficultés extérieures, mais en vous-même. Vous avez une période difficile, vous plaignez de ne pas vous sentir vraiment en pleine communion avec le Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas en vous, n'est-ce pas? Eh bien, regardez cela comme une épreuve. Et si c'est une épreuve, sortez-en par la foi. Commencez-vous par la foi, n'est-ce pas, à proclamer la victoire de l'Éternel, à proclamer que l'Éternel est votre soutien. Et vous traverserez cette épreuve où vous serez affermis. Le Seigneur Jésus n'a pas dit que dans sa propre lutte et sa grande lutte, n'est-ce pas, avant l'expiation, la mort c'est l'expiation, mais la lutte à Gethsémané, le Seigneur Jésus n'a pas dit que sa personne humaine, n'est-ce pas, était capable de faire la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Il a dit ceci: Père, à toi tout est possible. Alors que cette coupe s'éloigne de moi, c'est-à-dire que la mort s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté, que ta volonté soit faite. Quelle leçon là, n'est-ce pas? Dans une lutte extrême, c'était une lutte contre toute la puissance des ténèbres. Une lutte extraordinaire. C'était une lutte à la place de l'humanité entière. Alors, n'est-ce pas, il a fallu que des anges même viennent soutenir la personne humaine de Jésus, la personne humaine qui était en lutte. Ah, à toi, Seigneur, que cette coupe s'éloigne. C'est pas qu'il avait peur de la mort physique, mais il avait peur. Mais ce qui était en horreur, il n'avait pas peur, mais ce qui était en horreur à lui, c'était de porter ses péchés. Mettez-vous, essayez de vous mettre à la place du Seigneur Jésus, lui le saint, le juste, le véritable, lui en qui Satan n'avait rien. Portez cette horreur, ces horreurs sur lui, en être submergé, couvert, pour te diriger ainsi dans la mort. Mais c'est quelque chose d'épouvantable. Alors s'il se peut, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, c'est ça, cette coupe chargée des iniquités du monde, qui va me mener à la mort. Ce n'est pas tellement la mort, n'est-ce pas? C'est ça, cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Eh bien, chers amis, lorsque vous sentez que ça cède, lorsque vous sentez que vous êtes impuissant, mais chers amis, faites agir la foi. Ne cherchez pas autre chose, n'est-ce pas? Dans des entretiens particuliers, n'est-ce pas, on est étonné que vous résistiez encore quand on vous dit cela. Vous cherchez toutes sortes de raisonnements, vous vous tenez toujours dans la considération de votre malheur. Mais je peux pas, mais j'y arrive pas, mais c'est toujours comme ça, et ceci et cela. Mais si tu continues, c'est Jérémiade. Tu vas t'enfoncer de plus en plus dans le sable mouvant de ton incrédulité. Mais même si tu es à moitié enfoncé dans ce sable mouvant, fais agir ta foi. Regarde l'Éternel, regarde le Seigneur Jésus, et déclare-le par la foi, que sa volonté soit faite. Dis-lui, je veux, Seigneur, cela, mais je ne le peux pas, je suis incapable, que ta force me secoure, et vous verrez cela. C'est ainsi qu'on s'affermit, mais n'est-ce pas, la plupart du temps dans les entretiens, dans les consultations, n'est-ce pas, si je puis les appeler ainsi, que vous avez, n'est-ce pas, avec des pasteurs, alors vous apportez, n'est-ce pas, la description de vos malheurs, et puis vous restez toujours, toujours, toujours là-dessus, n'est-ce pas, il n'y a pas moyen de vous faire lever la tête. Et alors, ce qu'il y a, n'est-ce pas, d'affligeant, c'est que l'on sent bien, n'est-ce pas, que vous ne comprenez pas le problème. Et que même, n'est-ce pas, dans cet état de faiblesse qui est le vôtre, vous ne portez pas vers Jésus cet appel. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne, ta volonté. Et Seigneur, mais ta force, je choisis de faire ta volonté, je choisis la voie de la vérité. Seulement, vous avez le tort d'attendre de celui que vous consultez, du pasteur, mettons, n'est-ce pas, une sorte d'action, là, d'action de puissance qui va transformer votre situation. Ce n'est pas possible. Ce ne serait pas selon la sagesse de Dieu, ça, n'est-ce pas? C'est votre affermissement. On peut vous guider, le pasteur peut vous guider vers cet affermissement et peut prier pour vous, pour que vous réussissiez. Mais il ne peut pas, lui, n'est-ce pas, changer une situation d'une façon presque magique, n'est-ce pas, d'un seul coup transformée. Mais c'est en dehors de la sagesse de Dieu. Ce serait vous donner quelque chose qui ne correspond pas avec le travail de votre foi. Que votre foi se mette à l'œuvre. Alors, nous disons que David agit donc différemment. Il va faire la visite du camp de Saül, rentrer auprès des siens, il se fait accompagner d'Abiscaï, qui est le seul volontaire du moment, pour le suivre. Abiscaï, fils de Tseruja, c'est-à-dire fils de la sœur de David. Autrement dit, c'est le neveu de David, cet Abiscaï. Il est fils de Tseruja. Et il est frère aussi de Joab. Tous deux vont de nuit dans le camp de Saül. Et ils retournent tous les deux, n'est-ce pas, dans le camp de Saül, de nuit. Et au lieu de tuer le roi, comme Abiscaï en a l'idée, naturellement, il dit, tu vois, l'Éternel te le livre. Hein, l'Éternel te livre, ton ennemi, tu vois, il est là à ta discrétion, il dort profondément, tout le monde dort. Regarde ça, laisse-moi prendre l'épée, lui dit Abiscaï, et puis le clou est là, et puis c'en est fini. Il arrive, chers amis, que nous cherchions à nous guider et à guider notre action sur les événements. Et que de sottises, que de mauvaises choses ne sommes-nous pas capables de faire avec un tel moyen. Se guider par l'événement. Il y a bien des gens, n'est-ce pas, des chrétiens qui pensent ceci, puisque la situation est celle-là, Dieu me montre que je peux faire ceci ou je peux faire cela, n'est-ce pas? Tiens, la facilité s'ouvre de ce côté-là, alors je peux m'engager, je peux faire cela. Vous croyez que Dieu parle comme ça toujours? Je ne dis pas que cela ne peut pas se produire, bon, que le Seigneur... Mais quelquefois, le Seigneur ferme une porte pour que vous appreniez à l'ouvrir avec la foi. Mais en tout cas, chers amis, il y a des situations, certes, que l'Éternel pourra laisser se produire. Je ne dis pas toujours faire lui-même, mais laisser venir devant vous des situations qui sembleront vous appeler dans une certaine direction. Dire, tu vois, fais ça, tiens, le roi Saül, il est là, à ta discrétion, mais tape-le, c'est l'Éternel qui te le lit, tu vois bien, tu serais pas là si l'Éternel ne t'avait pas... voyez le raisonnement, hein? Eh bien, si David avait frappé, il aurait commis une faute terrible, il le sait, sa conscience le lui dit. C'est par sa conscience éclairée par l'Esprit de Dieu, la conscience d'un chrétien a repris vie, chers amis, la conscience, c'est là que le Seigneur va nous parler dans le tous les jours de notre vie, c'est là, dans le fond de notre conscience, n'est-ce pas? Alors il ne faut pas se laisser guider, n'est-ce pas, par une espèce d'automatisme. Tiens, telle situation est là, ah ben, alors je peux le faire. Tiens, telle autre situation. Mes chers amis, alors je vous dirais, écoutez, allez en ville, allez à Bordeaux, allez à Paris, vous allez voir un tas de portes qui s'ouvrent, et des mauvaises portes. Alors, parce que ces portes sont là, c'est le diable qui les a ouvertes. Alors, vous allez y entrer? Mais non, n'est-ce pas? Attention, on ne se laisse pas guider par les situations, les événements, les possibilités même, qui s'offrent, possibilités, disons, actuelles, sociales même, qui s'offrent devant nous. Non, on se laisse guider par sa conscience, la parole de Dieu et la conscience et la recherche de l'Esprit de Dieu, des directions de Dieu. Voilà par quoi on se laisse guider. Et là, n'est-ce pas, David montre bien qu'il ne va pas être le jouet des circonstances et qu'on a beau lui dire « L'Éternel t'a livré ton ennemi », ça, c'est vrai que l'Éternel a permis, c'est vrai, nous le disions déjà dans l'autre situation, l'Éternel a permis que David soit là et puisse être là, il aurait pu l'empêcher, non, il a permis. Mais l'Éternel compte sur une chose, que David ne fasse pas, N'est-ce pas? Il a la liberté de tuer Saül. Il a la liberté. Mais il n'a pas l'acquiescement du Seigneur dans sa conscience. Il a la liberté de faire l'acte, mais il n'a pas l'autorisation de par l'Esprit de le faire. Ainsi, David va régler son action sur la pensée de Dieu uniquement. Il ne va pas se fier à la circonstance, quoi qu'on lui dise. Ça, vous savez, n'est-ce pas, il y a aussi, d'après la réplique de David ici, on voit bien, n'est-ce pas, quelque chose que l'Écriture, la parole de Dieu, car elle est en toutes ses parties, parole de Dieu, ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle nous montre. Voilà, de nuit, et même l'Éternel a plongé jusqu'au dernier soldat dans un profond sommeil. Ils dorment tous comme des loirs. On aurait pu peut-être les secouer, ils ne se sont pas réveillés, n'est-ce pas? Alors là, c'est le calme complet, c'est comme s'il y avait des morts. Alors, évidemment, n'est-ce pas, David a les mains libres, et tout cela, c'est par l'Éternel, n'est-ce pas? Mais ce que lui dit Abiscaï, là, Abiscaï, lui, n'a pas la conscience éclairée comme David, et ce qu'il lui propose de tuer David, n'est-ce pas, c'est ni plus ni moins une tentation d'agir soi-même. Et c'est ce que David va savoir réfuter, n'est-ce pas? Me venger, moi, non, c'est à l'Éternel seul de frapper. Si l'Éternel juge bon de frapper Saül, mon ennemi, c'est à l'Éternel seul de le frapper, c'est pas à moi, n'est-ce pas? Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est pas à moi, c'est la tentation d'agir soi-même. Non seulement quand il s'agit de se venger, n'est-ce pas? Mais dans toute chose, de se substituer à Dieu dans ses prérogatives. Mes amis, attention, Dieu a des prérogatives qui lui sont réservées, elles ne sont pas à nous. Ça, il faut le savoir. Il y en a une, notamment, dont Jacques nous parle, d'une prérogative qui reste magnifiquement à Dieu et qui ne peut pas lui être prise, c'est celle de juger. Si tu juges ton frère, n'est-ce pas, tu dis du mal de ton frère, tu juges ton frère, tu dis du mal de ton frère, qu'est-ce que tu fais? Tu juges la loi. Et qui es-tu, toi, pour juger la loi? Tu sais que un seul est juge, celui qui est législateur, celui qui peut dire la loi, qui peut fixer la loi, celui-là est également juge. Mais toi, tu n'es pas dans cette prérogative de Dieu. Tu n'as pas cette prérogative. Et chers amis, prenons bien garde de ne pas nous mettre à l'égard de l'un et de l'autre dans une prérogative qui dépend de Dieu. Attention à la conscience de l'autre dans nos relations mutuelles. L'amour fraternel, c'est pas un amour, n'est-ce pas, qui comporte mille et un conseils. Il y a des gens qui sont très portés aux conseils, mais méfions-nous de cela. Moi, je n'ai pas à dire quelque chose à mon frère ou à ma sœur, quelque chose qui me semble, moi, être même favorable, lui être favorable, être bon. Je n'ai pas à... J'empiète sur les prérogatives de Dieu si je le fais, n'est-ce pas? Et attention, dans la dispensation de la grâce, n'est-ce pas? Il est bien dit, c'est dans la charte même de cette dispensation... Il est bien dit que nul ne dira à son frère « connais l'Éternel » car tous me connaîtront. Et si tous me connaîtront, les directions de chacun doivent être trouvées dans une relation directe et personnelle avec l'Éternel. Nous pouvons avoir à prophétiser, nous pouvons avoir des révélations, bien. Mais généralement, n'est-ce pas, nous ne sommes pas faits par Dieu les commissionnaires à l'égard de notre frère ou de notre sœur. Prenons bien garde à ça, chers amis. Nous ne sommes pas des commissionnaires. Autrefois, les prophètes étaient certains étaient commissionnaires à l'égard des rois, parce que l'Esprit n'était pas répandu sur toute chair. Mais maintenant, n'est-ce pas, nous ne sommes pas cela. Nous pouvons donner d'utiles conseils, si, par la parole de Dieu, n'est-ce pas, mais n'entrons pas dans le privé de notre frère ou de notre sœur, n'est-ce pas. C'est d'ailleurs littéralement écrit dans le Nouveau Testament, n'entrons pas dans le privé et surtout ne donnons pas des conseils. Après nous, d'après notre chair, sont les meilleurs pour lui, n'est-ce pas? Attention, ça, ce sont les prérogatives de Dieu. David et Abiscaï peuvent tout à leur aise donc accomplir leur visite et le prélèvement qu'ils font, n'est-ce pas, d'un échantillon, d'un témoin, de deux témoins, la lance de David et sa cruche qui devait être une cruche particulièrement ornée, sans doute aux initiales du roi, n'est-ce pas. Alors ils emportent ces deux objets comme témoins. Et alors l'Éternel avait plongé, avons-nous dit, n'est-ce pas, tout le monde dans un profond sommeil. L'Éternel, pour les laisser faire, pour leur laisser vraiment la liberté de faire, et pour laisser à David le champ libre avec sa conscience. Il a le champ libre. Oh, il a le champ libre. Tout le monde dort. Tu peux faire ce que tu veux, David. Tu peux faire ce que tu veux, vraiment. Je te livre Saül, ton ennemi. Mais tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas pas le tuer parce que en toi, il y a ma voix qui te dit « Tu ne serais pas agréable à l'Éternel ». Tu prendrais la place de l'Éternel. C'est à l'Éternel de le frapper. Et il le dit, si bien que David, n'est-ce pas, se dicte à lui-même sa conduite. Vous savez, nous avons à dicter à nous-mêmes notre conduite. Et ça, c'est écrit ou c'est écrit, ça? Ah, c'est écrit quelque part dans la Bible. Il est dit, la parole de Dieu est tout près de toi. Et souvent, vous la cherchez. Où est-elle? Dans ta bouche. Dans ta bouche, elle est, la parole de Dieu. C'est dit dans le Deutéronome, elle est dans ta bouche. C'est-à-dire quoi? Mais c'est-à-dire que si vraiment, n'est-ce pas, tu laisses agir ta conscience, si ta foi est à l'œuvre, tu vas te prophétiser à toi-même, comme David fait ici, tu vas te le dire à toi-même, tu vas te dire, non mon ami, tu ne fais pas ça. Si tu faisais ça, n'est-ce pas, tu ne pourrais pas plaire à l'Éternel, tu commettrais tel péché, n'est-ce pas, tu ne feras pas cela, tu ne peux pas faire cela. On se parle à soi-même, on se prophétise à toi-même, la parole de Dieu, elle est dans ta bouche. N'allez pas la chercher trop loin, n'est-ce pas? N'allez pas chercher de l'autre côté de la mer, comme dit le texte, n'est-ce pas? N'allez pas la chercher si loin que ça. N'allez pas chercher non plus toutes sortes de grands interprètes. Ah, il me faudrait un grand évangéliste pour savoir, n'est-ce pas, venant d'Amérique surtout, n'est-ce pas, pour savoir ce que j'ai à faire. Non. N'allez pas la chercher de l'autre côté de la mer. Allez la chercher, elle est là tout près de vous, dans le fond de votre cœur, si vous le voulez bien, dans votre bouche. David et Saül, alors, vont se parler, une fois que David est rentré dans son camp, ils vont se parler d'un peu loin, évidemment, n'est-ce pas? Et nous avons encore un dialogue, je ne veux pas m'arrêter maintenant sur ce dialogue, mais nous voyons, n'est-ce pas, qu'il aboutit à ceci, c'est que Saül recommence ce qu'on lui a déjà vu faire, n'est-ce pas? Alors, j'ai péché, reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, j'ai déjà une grande faute. Vous savez, il y a certaines personnes qui vous habituent beaucoup comme ça à leurs confessions répétées, n'est-ce pas? Ah oui, il y a des gens qui ont une certaine facilité pour s'humilier et se confesser. Ah oui, oh, ça j'ai eu tort, oh ça, oh yaya, yaya. Oh ça c'est sûr, n'est-ce pas? C'est à moi la faute, je reconnais, j'aurais pas dû faire ceci, cela. Et puis ils vont faire ça tout le temps, tout le temps. C'est un peu fatigant. C'est un peu fatigant. Et puis, disons une chose, c'est que ça n'est pas profond. Parce que ça ne détermine pas un changement de situation. Et ceux qui conduisent une église, les conducteurs d'église, n'est-ce pas, savent bien quand ils ont affaire à des chrétiens, n'est-ce pas, qui ont cette habitude, eh bien, c'est un problème pour eux, n'est-ce pas, parce qu'ils veulent bien accepter le repentir de quelqu'un, n'est-ce pas. Bon. Mais il faudrait tout de même que ce ne soit pas, n'est-ce pas, un système et que ça revienne tout le temps. Or, si c'est la chair, si ça vient de l'homme, si ça vient de la sensibilité de l'homme, alors ça peut se reproduire tant et tant, n'est-ce pas? Il faut véritablement que l'esprit soit en cause, que ce soit l'esprit. Mais là, n'est-ce pas, le repentir de Saül provient d'une déconvenue de la chair. Ah, quand la chair a subi une déconvenue, n'est-ce pas, et qu'elle est... Elle est là, n'est-ce pas? Elle est obligée de constater son échec, n'est-ce pas? De constater véritablement que ça n'a pas été du tout, qu'elle est confondue. Alors la chair se laisse quelquefois confondre. Ah oui, ah oui. Mais attention, attention. Ça n'est pas là un repentir, un véritable repentir. Il faut que ce soit du cœur. Il faut que le cœur soit touché, affecté, et que l'Esprit de Dieu ait agi. Et pour ça, il faut s'humilier devant Dieu, n'est-ce pas? Il faut savoir s'humilier devant Dieu, courber l'homme devant Dieu. Voilà la véritable repentance. Eh bien, cette nouvelle épreuve montre que David est en grand progrès. Cette fois, il sait utiliser vraiment la pensée de l'Éternel. Il sait l'utiliser. Il peut aller devant des situations où il va rencontrer la tentation de faire ceci, de faire cela. Il sait. Bien sûr, un jour, vous me direz, il succombera à une grande tentation. Laissons ça pour l'instant de côté, n'est-ce pas ? Ne regardons pas un échec, si grave soit-il. Nous regardons l'ensemble de la vie de cet homme, qui a été véritablement remarquable. David est remarquable par le fait qui, je vous le dis, il a su recevoir, il a su capter la pensée de Dieu. Et je vous montrerai à certains moments, il connaît la pensée de Dieu avant que Dieu l'ait exprimée. Moïse avait déjà fait cela aussi. Connaît la pensée de Dieu avant que Dieu l'ait exprimée. Comme c'est beau ça. Vous n'avez jamais eu ça dans votre vie ? De se dire, n'est-ce pas, dans un moment vraiment de prière et d'humiliation, voilà ce que je devrais faire. Voilà ce qui serait bien. Oh, je pense que c'est ça. C'est ça qu'il faudrait que je fasse pour Dieu. Mais attention, pas des choses toujours dans le négatif, mais dans le positif, dans le zèle, selon le zèle, dans l'action. Il faudrait que je fasse ça pour Dieu. Oh, je vais faire ceci, oui, ça ce serait. Et puis alors après, n'est-ce pas, d'entendre, soit un don spirituel, soit d'une autre manière, Dieu qui vous dit, eh bien, fais ceci, cela, ma volonté c'est que tu fasses ceci, que tu fasses cela, n'est-ce pas ? C'est magnifique. C'est magnifique ça, n'est-ce pas? Je dis un don spirituel, ça peut être très bien, n'est-ce pas? Seulement autrement, n'est-ce pas? Ça peut se manifester autrement. C'est un petit peu Adam se trouvant dans le jardin d'Éden. Tiens, tu as tout à ta discrétion, tu as beaucoup d'arbres, ils sont bons à manger, tout ça. Puis tu as un arbre là, un seul. Ça, tu vois, tu ne vas pas y toucher, mais il est là, tu peux y aller, tu peux l'approcher, tu peux même cueillir le fruit, tu pourrais en manger, tu pourrais faire ça, mais tu ne le feras pas. La parole de ton Dieu te dit de ne pas le faire, n'est-ce pas ? Mais alors, voilà le champ libre, tu as le champ libre. Alors, à toi de te conduire. Voilà ce que Dieu veut, c'est que nous nous conduisions par la voie intérieure, par la conscience, n'est-ce pas ? La conscience éveillée, où Dieu peut nous parler intérieurement, nous guider, n'est-ce pas ? Mais Dieu nous laisse la liberté. Mais attention, tu ne feras pas telle et telle chose, parce que, intérieurement, dans ton cœur, tu sentiras que c'est là le péché contre l'Éternel et tu ne le feras pas. Tu vas te guider par ton cœur. Voilà la marche du chrétien. Voilà la marche dans la dispensation de la grâce, chers amis. Que le Seigneur nous aide. Amen.